voici entre les Ismaël au Cachin oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Ok, et voici au Cachin oriental. Je pense qu'en combinant les deux, les présidents trouvaient une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. Et jeudi 1er septembre 2011, nous nous penchons avec vous sur le secteur commercial en RDC au cours d'une rencontre le 23 août dernier entre le Premier ministre Adolphe Mouzito et les associations des vendeurs. Et il a été convenu qu'un délai de 2 mois est accordé aux commerçants étrangers pour trouver d'autres activités qui ne relèvent pas du petit commerce. Et ceci pour répondre aux revendications de vendeurs congolais qui réclamaient l'exclusivité du petit commerce. Ce qui nous amène aussi à dégager des pistes et des solutions pouvant faciliter aux Congolais l'émergence dans le secteur commercial, où la plupart exercent les activités de survie qui ont été évaluées par la Banque centrale du Congo à plus de 35% du produit intérieur brut annuel et est reconnue comme employant une bonne partie de la main-d'œuvre locale. Ces activités sont restées toutefois fragiles car leurs acteurs ne remplissent pas les conditions d'accès aux services bancaires classiques. Par ailleurs, les coopératives d'épargne et de crédit qui octroyaient les services de microfinance et proximité ont été fragilisées dès le début des années 1990 par les pillages de 1991 et 1993. À ceci s'ajoute l'instabilité politique et macroéconomique. Comment faciliter aux Congolais l'émergence dans les secteurs du commerce? Nous en parlons avec vous dans cette vision. Nous recevons M. Michel Somoé, administrateur délégué de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, au FENAPEC. Kipi Poutou, Marie-Chantal Lumba réalise cette émission mise en onde par Dédéni Nyangata sous la supervision de Léonard Moulamba. Pierrot et la Méjou vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capistoire.
Bonjour à tous, nous parlons du secteur commercial et comment faciliter aux Congolais l'émergence dans ce secteur. On dit bien sûr que sur le plan informel, beaucoup de Congolais ils sont dans le commerce qui est déclaré plus un commerce de survie, mais comment peuvent-ils aujourd'hui devenir des grands commerçants, s'il faudrait utiliser le terme? Comment peuvent-ils se retrouver dans le commerce en gros, le commerce en détail? Comment peuvent-ils devenir des grands importateurs? Cela veut dire comment le commerce peut aujourd'hui occuper les Congolais d'une manière la plus productive qui puisse exister. Nous dégageons le plus des solutions avec vous. Appelez-nous 081 890 69 un message électronique à l'adresse pa@radiocapi.net. Prof. Michel Sombré, vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Pierre.
Je crois que nous revenons encore sur ces sujets. L'autre fois, nous avions juste évoqué le secteur du petit commerce, mais aujourd'hui, on a voulu élargir le champ de partage avec les auditeurs d'une manière globale dans le secteur commercial. C'est-à-dire partir du petit commerce, comment les Congolais peuvent-ils investir des gros moyens dans les commerces, être des grands importateurs, être aussi des grossistes à un certain moment. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse y arriver? Quelle peut être la première question, l'impact de la mesure prise dernièrement par le Premier ministre lors de la rencontre avec les vendeurs, cet ultimatum donné aux commerçants étrangers s'occuper d'autres activités à éviter les petits commerces, parce que cela vient compléter le sujet de notre émission de la fois passée.
Pierre, je voudrais d'abord vous remercier vous-même, personnellement. Mm-hmm. Et si vous m'en donnez l'occasion, je voudrais, parlant du commerce en général, mm-hmm. et sachant que c'est un thème qui concerne l'ensemble de notre pays, mm-hmm. territoire national, permettez-moi sincèrement de saluer de tout cœur les nombreux frères et sœurs qui sont vos auditeurs habituels de mon petit coin d'origine, de Kabinda, de Lubao, de Tchofa, de Kamana, de Kisengwa, de Bondokapé, et j'en passe, à qui j'annonce que je descends bientôt chez eux, leur rendre visite, installer un parti politique pour prendre en charge leurs problèmes et déposer ma candidature à l'Assemblée nationale.
Malheureusement, on n'est pas vraiment indiqué pour ça.
Bon, je voulais saluer cette occasion, pour mettre à moi. Et pour revenir à votre question, vous me demandez si quel peut être l'impact de la mesure qui a été prise par le Premier ministre, en fait la mesure d'accorder un sursis, je crois bien que c'est ça votre problème, d'accorder un sursis aux commerçants étrangers pour qu'ils puissent cesser avec les outils du petit commerce en République démocratique du Congo et laisser ce secteur presque entièrement, presque je suis le mot, entre les mains des Congolais. Moi, j'ai plutôt une crainte à formuler avant de parler de l'impact. La crainte, c'est que je me dis, et c'est pour ça que vous allez souffrir de l'impact, pourquoi faut-il accorder un sursis de 2 mois aux étrangers sur une loi qui existe depuis 1973, qui est une loi qui est connue, qui existe, et vous et moi, nous avions déjà parlé de ce problème d'urgence sur ce plateau plus d'une fois, pour dire, nous demandons au gouvernement d'appliquer la loi. Et si c'est connu depuis la loi existe depuis 1973, pourquoi pour une telle loi on renvoie à 2 mois? Et pourquoi 2 mois quand on sait que dans 2 mois, partant du jour où le Premier ministre l'a dit, nous sommes là en train de voir tout de suite les séances électorales et donc la fin du mandat du gouvernement existant? Est-ce que ce n'est pas une façon de renvoyer les choses à d'autres responsables qu'à ceux qui devaient les appliquer? Est-ce que ce n'est pas un bluff finalement qui va coûter le souci de pouvoir devenir lui-même éternel? Souvenez-vous du moratoire sur la double nationalité. Souvenez-vous de toutes les mesures provisoires qui ont été prises et qui sont devenues définitives. Tous ces sursis accordés qui ne sont jamais suivis d'impact plus tard. Ce sont des questions qui demandent que nous puissions rester l'œil très ouvert. Mais en dehors de cette suspicion, je reconnais que c'est une suspicion, en dehors de cette suspicion, je devrais dire que logiquement, si les étrangers prenaient en compte la mesure du Premier ministre d'accorder le sursis de 2 mois supplémentaires, on aurait dû assister à un phénomène particulier qui devrait consister en un écoulement rapide des produits. Et donc, les étrangers devraient se bousculer, les étrangers en particulier, pour vider le stock qu'ils ont. Et cela aurait dû avoir un impact sur les prix. C'est-à-dire qu'on devrait naturellement voir des prix chuter parce que chacun voulant vider rapidement son stock pour se réorienter dans l'activité économique, on aurait dû assister à une vente massive des produits venant des étrangers et donc à une chute spectaculaire des prix de ces produits. Or, on ne le constate pas ainsi. Ça veut dire que ces gens ne croient pas à cette mesure, ne croient pas à la possibilité qu'un jour ils soient effectivement éjectés du commerce. Et c'est comment je crains. Alors, ce que je crains, c'est que parce que c'est un pas qui ne peut pas se faire, je crains simplement que toutes les mesures politiques qui sont prises habituellement par notre pays ne soient continuellement sabotées par ceux qui devraient en être frappés. Et ça signifie quelque part l'impuissance de l'État, la crise de l'autorité de l'État qui accorde un souci là où il n'avait pas besoin d'accorder un souci.
Il fallait directement se respecter la loi.
Parce qu'elle existe comme loi depuis 113.
Voilà. Nous avons Sébastien qui est à Congolo, Théodore est en Boujima. Et bien, pour revenir maintenant, ça c'est un point par rapport à la situation du petit commerce, mais si nous pouvons revenir maintenant dans notre émission qui parle de cette émergence de Congolais dans les secteurs. Vous, en tant qu'administrateur délégué de la fédération de la FENAPEC, à quoi attribuez-vous, si on peut dire, cette absence de Congolais dans les commerces? Et quand je parle du commerce, je vois ces grands commerces, et permettez-moi d'utiliser les termes, des grands importateurs, et puis que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur, avec des grandes entreprises commerciales, bien sûr, pas en fait, les établissements du type quelqu'un avec une boutique de vente d'habits qui va peut-être acheter au Congo-Brazzaville ou bien il va y acheter au Gabon, mais des entreprises commerciales congolaises, en fait, des Congolais avec des grands capitaux. Pourquoi on assiste à cette absence un peu rapidement avant d'écouter les auditeurs?
Parce qu'il y a une absence de l'État. C'est ce qu'il faut dire simplement. Je vais vous dire comment. En fait, c'est comme tout enfant qui vient de naître ou qui veut naître, il a besoin des parents pour le supporter dès le départ, assurer sa croissance et jusqu'à le rendre capable de d'affronter les difficultés de la vie seule. Au Congo, que se passe-t-il? Cet État qui devrait assurer cette protection de l'industrie locale, assurer la protection de la petite et moyenne entreprise qui devrait émerger, cet État ne regarde pas ce côté-là. Il a des yeux tournés vers l'étranger en permanence. En fait, les Congolais font face à un double défi énorme. Premier défi, il leur faut trouver des capitaux pour investir, c'est-à-dire accéder au crédit. Et or, l'accès au crédit leur est pratiquement refusé. Refuser pourquoi? Parce que les banques leur posent des conditions qui ne sont pas à leur portée. C'est exactement qu'on voit des grandes entreprises dans ce pays qui exigent aux enfants qui sortent de l'université une expérience professionnelle minimum de 3 ans, alors que l'enfant vient à peine d'avoir son diplôme d'université. Vous demandez une expérience professionnelle. Ça veut dire que vous lui refusez catégoriquement un jour d'avoir la chance de travailler. Et c'est ce que les banques font vis-à-vis des PME congolaises. Quand une PME approche une banque pour dire je voudrais accéder au crédit, voici mon projet. J'ai même une garantie quelque part. C'est pour les donner d'une façon ou d'une autre. Parce que la garantie n'est pas que matérielle. Il y a la garantie personnelle. Il y a la garantie financière. Une PME peut venir auprès de la banque en disant, j'ai une garantie personnelle. Je suis crédible. Regardez mon projet, étudiez-le. La banque va dire, donnez-moi le bilan de vos 3 derniers exercices. On sait que la PME rarement en a. Donc on lui pose des conditions qui ne sont
pas vraiment d'aller au crédit.
Et lorsque on parvient malgré tout à lui accorder le crédit, c'est au taux d'usure, le taux le plus cher du monde, pratiquement 5% par mois. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut s'accommoder d'un tel taux. Et ça fait que ceux des Congolais qui acceptent ce genre de crédit se passent la corde au cou, se suicidèrent. Ils se suicidèrent parce que 2-3 ans, 2-3 mois après, ils se trouvent totalement incapables de rembourser le crédit. Ils changent même d'adresse pour ne pas être poursuivis par la banque. Ça se passe comme ça. Deuxième défi, qui est à la base de l'absence du Congolais dans le secteur du commerce, c'est le défi de l'accès au marché public. En réalité, vous vous lancez dans les affaires dans la mesure où vous savez que vous avez une demande en face de vous. Vous aurez des consommateurs qui vont passer la commande. Et le plus grand consommateur dans tous les pays du monde s'appelle l'État. C'est le plus grand consommateur. Regardez le budget de l'État. Il y a des budgets d'investissement, il y a des budgets de consommation, il y a des budgets de partie par l'État. Et tous ces budgets signifient les dépenses que l'État doit effectuer pour acheter des biens et services auprès des fournisseurs. Et l'État exclut totalement la PME congolaise de son marché public. Or, tout le monde sait que cela aurait dû même compenser, non seulement permettre à la PME d'investir, parce que l'investissement est une réponse à la demande qui est exprimée par les consommateurs. C'est-à-dire devant une demande solvable, possible, effective, la PME non seulement se trouve exclue de cette chance d'investir parce que le consommateur principal n'en veut pas, mais en plus de ça, se trouve aussi exclu d'une opportunité que le même consommateur principal accorde à ses opérateurs étrangers. C'est quoi? Tout le monde sait que lorsque l'État conclut un marché, un contrat de marché avec un fournisseur quelconque, ce marché est toujours préfinancé par l'État. Alors, en bas de facture, on écrit toujours modalité de paiement, 50-75% à la commande, le reste à la livraison. C'est-à-dire que ce sont des marchés qui sont totalement préfinancés. Et l'État accorde donc en quelque sorte des crédits sans intérêt à des opérateurs étrangers. On dit à l'État, mais pourquoi vous ne donneriez pas ce crédit à des opérateurs congolais pour leur permettre de vous fournir les mêmes biens, parce que les étrangers, eux-mêmes, on sait où ils achètent les rames de papier qu'ils donnent à l'État pour consommer. C'est sur la vue catholique ici. Mais pourquoi ne pas faire le même crédit à l'opérateur congolais qui fasse la même chose que l'étranger? Mais quand c'est la peau blanche qui demande, l'État dit, c'est tout ça crédible. Et quand c'est un Congolais qui vient dire, on n'a pas confiance. En réalité, c'est quoi? On exclut le Congolais par l'État lui-même, qui ne lui facilite pas l'accès au crédit d'une façon ou d'une autre, parce que la réglementation bancaire, c'est une affaire de l'État, et les banques sino étrangères sont totalement libres de faire ce qu'elles veulent, et cela nous pèse très lourd sur les opérateurs économiques, qui doivent payer les prix les plus forts sous la barbe de l'État, qui voit comme s'il ne voyait pas, que ce soit sous sa barbe, même si l'État de temps en temps prétend couper sa barbe. Mais en réalité, cela se passe sous sa barbe, et il ne fait rien. Voilà pourquoi le Congolais est exclu du marché. Mais Pierre, cela n'est pas sans conséquence.
Nous allons revenir aux conséquences. Nous avons d'abord compris les raisons et le temps que les éditeurs aussi puissent absorber ces raisons parce qu'ils vont intervenir. Et les conséquences, nous allons les démontrer au fur et à mesure que nous avançons avec vous dans cette émission. On a compris les raisons que vous avez données. Les conséquences, nous allons l'analyser. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour remédier? Nous allons revenir à vous. Le temps d'écouter pour cette première partie, Sébastien de Kongolo au Katanga, Théodore qui est en Boujimaï et Giscard qui est à Bounia en province orientale.
Parole aux auditeurs.
Sébastien, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez
je vous appelle depuis Congolo.
Dans la province du Katanga. Vous avez suivi l'intervention de notre invité parce qu'on dégage les pistes de solutions pour permettre aux Congolais de pouvoir se développer dans les secteurs du commerce. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui puisse être fait pour que cela puisse marcher, Sébastien?
Ok, Sébastien, je vous appelle les Congolais. Je suis le directeur de Radio Kapi. À mon avis, la mesure d'exclusion des importateurs et grossistes étrangers fera en sorte que les Congolais puissent en partir. Elle est bonne dans la mesure où les Congolais trouvent un moyen de trouver de l'emploi localement. Elle est mauvaise étant donné que les Congolais qui s'adonnent au petit commerce sont pour la plupart inexpérimentés dans l'importation de certains biens de première nécessité. Mais voyez-vous pas que nous risquons de revenir à la situation où l'on parlait de la zaïrianisation, période où les magasins et les boutiques étaient quasiment vides. Pourquoi ne pas associer ces importateurs et grossistes étrangers aux Congolais qui exercent le petit commerce? Voilà ma préoccupation.
Mais vous pensez, vous, bon, là vous êtes revenu sur la mesure que nous avons commentée au début de l'émission, vous pensez qu'il ne faudrait pas exclure d'emblée les importateurs étrangers dans les petits commerces, il faut les associer pour permettre aux Congolais de pouvoir se retrouver. Bon, vous avez commenté le premier volet de la question qui était abordée dans l'émission de la fois passée. Merci beaucoup, Sébastien. Théodore, vous êtes en Boujoumaï, bonjour.
Bonjour.
En fait, vous avez suivi notre sujet aujourd'hui, c'est pas de revenir sur le petit commerce, mais c'est de pouvoir dégager les pistes de solutions qui peuvent aider les Congolais à se retrouver dans le secteur commercial. Et là, nous avons parlé des grandes entreprises commerciales, des grands importateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais arrivent à ce niveau-là?
Merci pour la parole. Bon, ici, chez nous, au Kassai Oriental, plus particulièrement en Boujoumaï, nous avons un problème. Vous savez que nous sommes dans la zone A. Zone A, il y a eu d'abord la loi sur les sauf-conduits. Les blancs expatriés ne devraient pas venir ici. Mais depuis que cette loi est levée, aujourd'hui nous avons des expatriés blancs dans notre ville. Mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? Les expatriés sont importateurs, fabricants, et il y a même l'exclusivité de vendre. Comme par exemple la Bétesco aujourd'hui, c'est lui qui a l'exclusivité de vendre la moto Yamaha 100. Quelqu'un ne peut pas se rendre en Chine aujourd'hui, acheter la moto Yamaha 100, venir vendre ça ici en Boujoumaï. C'est exclu. C'est comme aussi les piles tigères. Quelqu'un ne peut jamais se rendre aujourd'hui en Chine, acheter les piles tigères, venir vendre ça ici. Il y a exclusivité. Ils sont en même temps grossistes. Alors, par cette mauvaise foi, ils vendent même en détail. C'est ça le grand problème. Alors, ici, au niveau des Boujoumaï, nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé toutes ces maisons auprès des services de l'économie et commerce. Cela avait coïncidé avec la marche de nos camarades de Kinshasa, mais chose est grave, pour que ces expatriés arrivent à se conformer à la loi numéro 72021, portant aux créations et organisations de la promotion des petites et moyennes entreprises sur la réglementation du petit commerce, notre constat est ceci. Tous les agents de l'économie et commerce qui seront largués sur le terrain ne feront pas bien leur travail. D'abord, ils sont mal payés, exposés à toute tentative de corruption devant les concernés. Alors, pour nous, nous demandons qu'il faudrait au moins une équipe mixte. Nous avons notre invité qui est de petite moyenne entreprise. Je sais qu'il n'a jamais été même associé par le ministre pour nous recevoir, afin de pouvoir donner des solutions. On ne reçoit que la fête. La fête encadre tous ces expatriés blancs-là. Voilà, nous avons un grand problème ici, chez nous. On n'arrive pas vraiment à bien travailler avec ces expatriés. Ils sont les bienvenus chez nous, mais qu'on applique la loi selon la loi. Voilà, un peu ça.
Voilà, vous êtes revenu encore. Je crois que là, nous risquons de revenir vraiment plus sur le problème de mélange des uns et des autres dans le petit commerce. Mais ici, je retiens quelque chose de très important, ce que j'avais dit, Théodore, c'est par rapport à l'exclusivité de marché. Vous avez évoqué les cas de motos, Yamaha 100 et Yamaha plutôt, et vous avez aussi évoqué le problème des piles. Vous pensez qu'il y a une société qui a déjà le monopole de revente, ce qui veut dire qu'un Congolais ne peut pas aujourd'hui se retrouver dans ce secteur parce qu'il y a déjà une société qui a le monopole de l'achat et la revente de ces produits. On va en commenter avec notre invité. Nous avons Giscard qui est à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Giscard, quand on parle de ces Congolais, comment les aider à pouvoir se développer dans le secteur commercial, vous êtes à Bounia, vous avez quand même les exemples des grandes entreprises commerciales congolaises qui importent des produits qui ont des grands magasins qui évoluent dans la cité de Bounia.
Affirmatif, et même il y a des Chinois qui se placent ici. Cette histoire
des détails a failli aussi dégénérer ici à Bounia.
Oui, Giscard, nous ne faisons pas le débat autour de qui vend en détail, qui vend en gros, mais nous dégageons les pistes des solutions pour aider les Congolais qui sont à Bounia à devenir aussi des grossistes, à pouvoir se développer dans le secteur du commerce. Voilà un peu comment nous orienter l'émission, au lieu de revenir sur ce problème des ventes du petit commerce, parce que là, la solution a déjà été trouvée, on pense que ça va s'améliorer avec le temps.
Oui, ok, la balle est toujours envoyée vers l'État congolais, qui doit effectivement faire en sorte que ces petits commerces puissent émerger. Effectivement, il y a le problème de crédit qui pose sérieusement problème, pour autant que beaucoup de microfinances ou de coopératives de femmes qui ont vraiment aussi affaibli, qui ont fait complètement, les gens ont perdu confiance, même à ces microfinances ou même des banques qui déçoivent. Et l'État a vraiment une grande responsabilité en cette matière pour faire émerger ces petits commerces. Pour autant aussi, du côté des opérateurs économiques, c'est n'importe qui se verte dans cette histoire. Mais il y a pas rempli aussi des conditions qui sont faites que, par exemple, la loi de 113, c'est la loi particulière sur le commerce. C'est le même État qui limite le commerce et de gros à un certain niveau. Et bien maintenant, les forces qui, comme étrangers, se versent dans ça, et qui bloquent complètement les marchés à un certain niveau, à un certain rang, pour maintenant le petit commerce a difficile à émerger. Pour autant, vraiment, il faut, et je crois que quel est maintenant cette loi encore de crédit qu'il faut, pour autant que même les voies qui étaient accessibles pour le crédit ne font pas confiance. D'accord, le problème, c'est le problème que ce petit commerce, maintenant, ça va poser un problème.
Merci, vous êtes revenu sur l'octroi des crédits, les structures des microfinances qui devraient ainsi permettre aux Congolais de pouvoir avoir cet accès au crédit et se développer dans les commerces. Notre invité l'avait déjà dit. Nous rentrons ici à Kinshasa. Léonard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et nous voulons voir aujourd'hui les Congolais se développer dans le secteur commercial pour ne pas se limiter à ces débats autour de qui doit faire le petit commerce, mais le voir aujourd'hui s'épanouir, avoir des grands capitaux dans le secteur commercial, de grandes entreprises d'importation. Alors nous dégageons les pistes et les solutions pour vous. Qu'est-ce qui peut être fait pour amener les Congolais à ce stade d'activité commerciale?
Oui, merci de m'avoir posé cette question. Je crois, mon humble avis, le problème a double volet. Le premier, c'est le volet comportemental, et le deuxième, c'est le volet économique. Nous pouvons dire un simple exemple. Un pantalon jeans à Brazzaville ici, c'est moins de 8 dollars, peut-être pas 5 dollars. Mais les Congolais qui traversent à moins de 3000 francs, ils rentrent au pays, ils mettent le même pantalon à 15 dollars. Tandis qu'un expatrié, c'est prendre le même pantalon, venir les écouler au grand marché à moins de 10 dollars. Mais si nous allons dans le point de vue détail, pas petit commerce, même tous les petits commerces à Brésil qui cherchent ça sont des titres purement informels. Le gouvernement a bien fait pour protéger peut-être une partie de la population qui s'est lancée dans l'informel, tout en oubliant qu'une grande majorité traîne encore dans le plus informel qui est le consommateur. Les consommateurs ne sont pas protégés, mais on a tenté à protéger juste ceux qui détaillent. Une même paire de caisses dans une boutique expatriée va se vendre à moins de 10 dollars, tandis à l'extérieur de la porte, aussitôt que vous sortez de cette boutique-là, vous trouvez la même paire de caisses qui va revenir à 25 dollars. Mais quand on soutient, je ne comprends pas. Moi, franchement, comme tout consommateur qui se respecte, les autres qui m'ont même précédé ont tendance à soutenir cette poche, et cette mesure ne devrait même pas être prise dans cet cadre-là. Bon, autre volet, si nous voulons dire petit commerce, c'est juste le comportement qui dérange les gens. Petit commerce, qui est plus petit commerçant que l'autre? Dès lors que notre pays a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, on se remette un peu dans l'histoire. Ne voyons pas seulement les gens vendre au grand marché pour dire que nos petits commerçants, grands commerçants, oh, il faut que les autres aussi émergent, il faut que les autres n'émergent pas. Mais ce n'est pas ça. Nous avons accepté. Il y a déjà la réduction des statuts de l'étranger aux nationaux.
tout le monde. Il n'y a plus actuellement.
Oui, l'honneur de notre débat, bon, peut-être qu'il y en a des difficultés que les auditeurs comprennent comment nous orientons le débat. Notre débat n'est pas autour de la pratique du commerce par le si vous m'avez suivi.
En fait,
écoutez-moi, si on peut s'écouter, c'est mieux. Notre souci, c'est comment le Congolais PF s'est développé dans les commerces. Enlevons le débat autour du petit commerce, je viens de l'expliquer encore une fois de plus, c'est pour encore les auditeurs qui vont venir sur les antennes. Nous ne faisons pas les débats autour de qui vend une boîte de sardines, qui vend une paire de ketchup, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Congolais aujourd'hui puissent devenir, puissent se développer dans les commerces? Quelles sont les mesures à prendre? C'est pas autour de ceux qui vendent à moins cher, ceux qui vendent à plus cher. Voilà un peu l'orientation de notre débat. Vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Kinois aujourd'hui puissent être des grandes entreprises, des commerciales, des grands importateurs, des produits, des grands grossistes? Voilà un peu comment nous dégageons les pistes de solutions pour ne pas rester autour de la vente de boîtes de sardines par les expatriés, par les Congolais. Voilà un peu notre souci dans cette émission, Léonard.
Très bien, je vais me joindre à mon frère Bikananga, celui qui a suggéré un cas d'une société de la place. De la place, moi, je me réserve un peu à pouvoir citer cette société-là. Là, c'est purement le monopole. Il faut commencer par libéraliser le secteur. Dès lors qu'on aura à libéraliser le secteur, il y a des Congolais qui vont quand même se relancer pour importer les mêmes produits que les autres. Il peut y avoir une bonne concurrence sur les champs. Et les Congolais pourront bien se retrouver. Mais il ne faut pas oublier un aspect. Et chercher à se retrouver, ça va dépendre aussi de l'esprit entrepreneurial du Congolais. Actuellement, on voit le Congolais, c'est comme s'il a tendance à se focaliser juste sur une seule activité. Quand on voit, il faut vendre, il faut faire ceci. Il n'y a pas que ça. Il y a des Congolais qui ont véritablement des grands capitaux, mais qui ne cherchent pas à investir dans d'autres domaines pour contraindre aux étrangers de pouvoir nous envahir. Ou soit pour contraindre à ceux qui ont déjà pris le monopole de pouvoir arrêter un peu avec leur expansion de monopole. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, de l'autre côté vers Kananga, ces entreprises-là n'avaient pas de monopole. Mais avec l'État, cela ne veut pas dire qu'à Kananga, il n'y a pas de grands entrepreneurs qui pourraient investir leur budget dans d'autres activités. Je crois aussi, nous devons apprendre à assumer ceux qui ont des moyens, que ceux qui ont des moyens arrivent quand même à faire quelque chose qui de nous faire juste de publicité, geste invisible, geste ceci. Je crois que ça, c'est une étape qui doit être tournée. Ça.
Merci. Vous pensez qu'il faudrait aussi l'esprit d'entrepreneuriat de la part des Congolais qu'ils puissent
bien soulier
leur facilité. Merci, Léonard. Nous avons Franck qui est à Goma, qui est le monde qui est à l'étude. On va terminer avec vous, revenir à notre invité. Franck, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, vous avez suivi notre souci dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes partis du constat, du débat autour de qui doit faire le petit commerce, qui doit évoluer. Mais nous voulons partir du petit commerce et permettez les termes, le grand commerce. C'est-à-dire pouvoir les Congolais dans ces commerces d'investissement, dans ces entreprises d'importation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux qui sont à Goma aujourd'hui puissent s'épanouir dans ces commerces, Franck?
Oui, écoutez, bon, la décision qui a été prise dernièrement pour favoriser le Congolais ou les Congolais de sport qui ont été réunis pour commerce, on dit que la loi existait depuis très longtemps. Hein. Là, la question qu'on se pose, savoir pourquoi est-ce que cette loi n'était pas appliquée pendant 5 ans.
Franck, si on peut se comprendre, revenons à ce qui... La loi, nous avons déjà débattu autour de ça, je ne sais pas si vous avez bien suivi notre question, ce n'est pas autour de faire appliquer la loi sur les petits commerces, mais nous allons au-delà du petit commerce. Comment le Congolais peut aujourd'hui aussi se retrouver dans le grand commerce pour devenir grossiste, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faciliter cela, au lieu qu'il puisse toujours se discuter autour du petit commerce, autour du détail? Voilà un peu comment nous dégageons les pistes de solutions, Franck, si vous êtes avec nous sur les antennes.
Ok, d'accord. Bon, je crois que votre invité, que je souhaite beaucoup, hein, c'est celui-là qui je souhaite beaucoup, je l'ai suivi, hein, qui a posé la question sur les crédits. Et là, c'est très, très important parce que tous les gens qui viennent, hein, des jeunes comme nous, ils ont le crédit des jeunes banques respectives. Alors, chez nous, ce n'est pas le cas. Je crois que c'est sous volonté, si je ne me trompe pas, qu'on a suivi qu'il y avait une enquête qui était faite à vous. Pratiquement, c'est 2 ou 3% des Congolais qui ont un compte en banque. C'est ridicule. Alors, comment voulez-vous que 3% des Congolais ont un compte en banque et ces Congolais-là, aujourd'hui, ils sont victimes de ces 3% des Congolais? Je m'excuse de parler un peu de ça. Il y a pas mal d'opérateurs économiques qui ont déposé là au moins les banques congolaises. Ils sont victimes, je ne sais pas si on peut pas se compter ou comment, on n'a pas le droit d'avoir la liquidation c'est comment voulez-vous qu'on puisse octroyer aux Congolais de l'UD au moment où, quand ils déposent leur effort, et ces fondations l'occupent de ces raisons qui sont jusqu'à présent inavouées. Voilà un peu le fil dans lequel nous avons à trouver dans ce pays.
Merci. Vous pensez qu'il faudrait faciliter aux Congolais l'accès au crédit bancaire, mais là il se pose un problème de confiance entre les Congolais et les banques, et quand peut-être la banque dans laquelle on a investi puisse être en liquidation sans qu'on soit remboursé, tout cela sont des problèmes qui ne peuvent pas permettre aux Congolais de pouvoir émerger. Nous terminons avec vous, Philemon de l'ICACI. Bonjour Philemon.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi les uns et les autres, on a dégagé les pistes et solutions qu'il faudrait permettre aux Congolais d'avoir accès au crédit bancaire, ce qui peut leur permettre de pouvoir se développer dans le secteur commercial. On vous écoute, Philemon.
Ok, mon intervention c'est ici. Du point de vue que nous nous retrouvons à ce qui concerne la loi,
Finalement, vous avez des problèmes, vous écoutez l'émission à travers votre poste récepteur, cela nous pose assez de problèmes. Éteignez ce poste récepteur, écoutez l'émission directement au téléphone, on peut avancer comme ça. Arrêtez votre poste récepteur, s'il vous plaît, Finalement.
Je dis ceci, la loi est bien établie en disant que non, il faut qu'il y ait une interdiction formelle de ceux qui font quand même les détails ou ceux qui font les gros. Maintenant, à ce qui concerne les Congolais, se retrouvent maintenant, ils n'ont pas de moyens pour bien se situer ou faire un égo. Maintenant, ceux qui viennent les expatriés, ils imposent le marché, ils font même le détail. Au lieu que les Congolais fassent le détail, maintenant, ils fassent aussi le détail. Maintenant, quand vous allez même en Tanzanie, puisque moi j'étais en Tanzanie, vous trouvez que les expatriés, par exemple les Chinois, et ils font seulement que les gros. Ils n'ont pas le droit de faire seulement le détail. Le détail est réservé seulement aux autochtones là, aux Tanzaniens.
Merci, merci Philemon. Vous pensez qu'il faudrait respecter la loi autour de qui doit faire le commerce en détail, qui doit faire le commerce en gros. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Appelez-nous au 081-899-669-669. Mais dégagez les pistes et solutions pour que les Congolais ne restent pas seulement à revendiquer le détail. Comment peut-il aussi partir du détail pour devenir grossiste, pour devenir grand importateur, pour devenir grand investisseur dans le secteur commercial? Voilà un peu ce qui nous préoccupe plus dans cette émission, pour que le Congolais grandisse et qu'il ne reste pas seulement autour de son commerce de détail. Nous allons revenir à notre invité pour commenter cette première vague d'intervention de nos auditeurs.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Monsieur Michel Sommoué, j'ai un constat en écoutant tous nos auditeurs, il se dégage un constat. On a fait assez d'efforts pour expliquer que nous voulons dégager les pistes de solutions pour amener les Congolais à développer les secteurs commerciaux. Mais beaucoup de gens sont revenus sur le problème du petit commerce. J'ai peur même que les Congolais aient oublié à parler du commerce, à devenir des grands importateurs, à devenir des grands investisseurs dans les secteurs commerciaux, parce que tout le monde se bat et pleure encore pour qu'on leur laisse le détail. Vous voyez le constat que moi je dégage de cela. Et pourtant, beaucoup de gens ne semblent pas donner des pistes de solutions. Comment eux, ils peuvent aussi devenir des grands investisseurs? Ça, c'est un constat que j'ai fait en écoutant ces premiers groupes d'éditeurs.
C'est un constat vrai, mais je crois que les préoccupations des intervenants sont tout à fait fondées.
Mm-hmm.
Pourquoi elles sont fondées? Parce qu'il n'est pas normal que l'on sorte vite aux lois avant d'avoir organisé un débat sérieux sur l'état de l'économie nationale.
Mm-hmm.
Parce que quelque chose qui manque fondamentalement dans ce pays, c'est justement cela, l'économie nationale. Il n'y a pas une économie nationale, il y a une économie étrangère au Congo. Il n'y a pas encore une économie nationale des Congolais.
Mm-hmm.
Une économie qui soit la propriété des Congolais. Une économie qui soit orientée par des politiques qui répondent aux aspirations de la population. Nous avons une économie qui adopte des politiques économiques qui nous sont dictées pour besoin des intérêts étrangers. J'ai entendu un intervenant dire, écoutez, nous avons déjà signé les chartes pour nous ouvrir à l'OMC, nous sommes membres de l'OMC, etc. On ne peut plus revenir sur cette question. Mais je crois que c'est catastrophique. Il y a des Congolais qui veulent entrer dans la civilisation par la porte de sortie. C'est trop grave. Il y a des Congolais qui font de la mondialisation une sorte de pierre tombale de l'économie nationale, de la souveraineté nationale même. Je pense qu'on devrait organiser un débat sérieux sur l'économie de ce pays et nous dire qu'est-ce qu'il nous faut, quels sont les fondements, les bases d'une économie nationale. La question sur le petit commerce, sur le commerce étranger ne se poserait pas beaucoup. Il suffit qu'on respecte les trois axes, comme nous avons souvent l'habitude de le dire, pour favoriser l'éclosion d'une économie dans ce pays. La première chose, c'est que aujourd'hui, on parle des Chinois qui viennent vendre des beignets, qui c'est ça, mais ces Chinois ont reçu des crédits dans leur pays d'origine. Il y a des banques de l'État chinois qui financent des Chinois pour exporter la pauvreté à travers le monde, exporter le chômage à travers le monde. Et ces gens viennent ici, ils s'improvisent dans le marché des cacahuètes et des beignets, à Gambela et ailleurs. Ça se voit. Mais ils ont reçu un crédit de leur État. L'État favorise. Donc, l'axe crédit est une question capitale. Il y a un intervenant, je crois que c'est Franck
Dogoma,
qui a bien fait rapport à ce que nous appelons le taux de bancarisation. Et nous aussi, il a parlé de la profondeur financière. Le taux de bancarisation est le plus faible dans ce pays. Pourquoi est-ce que le banque peut-il être si faible? Est-ce parce que les banques n'ont pas confiance aux épargnants ou parce que les épargnants n'ont pas confiance aux banques? Il a fait allusion à un problème sérieux de la banque congolaise, je crois que nous avons parlé sur ce même plateau de Radio Capi pour dire que c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays. Où est l'État par rapport au fonctionnement, à l'existence d'activité bancaire? Or, l'activité bancaire, comme dit Michel Demourgue, La caisse monétaire ou la disponibilité financière est une condition préalable à toute activité économique, à tout exercice d'une activité productive. Donc le secteur financier, le secteur monétaire est capital, c'est le point de départ. Deuxième axe, je l'ai dit tout à l'heure, et par rapport à cet axe de crédit, il y a trois choses que l'État devrait faire à bon avis. La première chose est de dire, mais réglementons d'abord les banques qui existent, réglementons le crédit. Pourquoi l'État peut-il accepter une libéralisation sauvage du secteur d'échange, une déréglementation d'échange catastrophique, qui fait de nous-mêmes une plaque tournante dans le blanchiment des capitaux? Tous les capitaux sales viennent au Congo. À cause de quoi? De la réglementation trop laxiste d'échange. Vous avez suivi, il y a quelques mois, le département américain du Trésor citer le Congo, une entreprise congolaise parmi les opérateurs qui font le blanchiment des capitaux à travers le monde. Ça peut nous coûter trop cher demain ou après-demain si on n'est pas en conscience. Il faut réglementer le secteur bancaire, réglementer le secteur des crédits par les banques qui existent. Et vous notez que toutes les banques sont étrangères. Aucune initiative, aucune banque initiée par les Congolais. Tous les Congolais qui se trouvaient dans des activités bancaires ont été tous éjectés de ce secteur. Éjectés d'une façon ou d'une autre. Pousser à sortir du secteur bancaire. Est-ce un complot ou est-ce une activité, une naïveté, je ne sais pas. Mais on se dit plus loin, à la limite, pourquoi l'État lui-même ne se dote-t-il pas d'une banque? Parce que les autres États du monde sont propriétaires des banques.
Oui.
Pourquoi l'État congolais a-t-il refusé de s'investir dans le secteur bancaire? Est-ce qu'on le lui interdit? Mais qui est celui-là qui interdit à l'État congolais d'être propriétaire d'une banque? Parce qu'une banque de l'État pourrait s'étendre à toute la République et permettre aux plus pauvres d'y accéder. Les Chinois très pauvres qui sont dans le chômage accèdent au crédit auprès de leur banque d'État. Mais pourquoi l'État congolais a-t-il commencé par sortir du capital? Il s'est efforcé d'abord à sortir du capital de l'UBC qui deviendra la banque congolaise depuis que au grand caprice de je ne sais pas de quoi. Et puis après, c'est vers la BDP, l'ex-BCCE, que l'État se décharge pour dire, c'est fini, on vend ça à un aventurier qui s'appelle Dominique Noblet, et l'État disparaît. Et tout le patrimoine de l'État dilapidé. Comme ça. La banque était la plus représentative de l'activité bancaire à travers la République démocratique du Congo. Et l'État sort de là, et c'est fini, il se tait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'État est-il poussé par des forces étrangères, anti-congolaises, à ne pas favoriser l'émergence d'une activité financière et bancaire dans ce pays, qui est la condition du financement de l'activité économique dans tout le territoire national? C'est une question qu'il faut se poser.
Le deuxième axe,
pour terminer, c'est pour le premier axe. Pourquoi l'État ne favorise-t-il pas l'initiative des Congolais eux-mêmes, des privés, pour créer des banques? Pourquoi l'État est-il obligé d'une façon ou d'une autre de quitter la banque? Pourquoi l'État s'est-il amusé à faire partir Kinduelo de sa banque? Pourquoi l'État du final ne favorise pas que les Congolais créent des banques? C'est quand même une question qui m'interpelle, qui est la somme de bon, que les Congolais doivent prendre connaissance, doivent prendre conscience et dire qu'est-ce qui se passe-t-il? Deuxième axe, c'est celui du marché public. Je l'ai déjà dit. Mais je dis, si l'État aujourd'hui a pris, ou a plutôt accédé à notre demande permanente de respecter la loi sur le commerce, et préserver le petit commerce congolais. L'État doit être sincère. Et sincère veut dire quoi? Nous savons que s'il est plus grand consommateur, il doit prendre une loi consécutive à celle-là pour dire, moi l'État, je réserve désormais tel secteur et tel secteur de ma consommation aux biens qui proviendront exclusivement des PME congolaises. Nous allons le croire. Vous savez, il y a un intervenant qui a dit, on sait que la FENATEC n'est jamais associée par l'État dans toutes les grandes décisions, l'État recourt à la FEC. C'est vrai, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. La preuve est que vous avez vu les agents du petit commerce se déployer dans la rue en réponse à toutes les choses que nous avons déjà faites. Mais à aucun moment, le gouvernement n'a dit que c'est la FENATEC qui a été le promoteur de toutes ces revendications. Où est-elle? Non, on ne voit pas. On dit si l'État est sincère avec lui-même. Pour nous associer au débat, nous voulons que l'État prenne des mesures par lesquelles il réserve un important secteur de sa consommation aux opérateurs économiques congolais.
Mm-hmm.
Que ce soit des biens de consommation courante, des biens d'investissement, qui sont produits par les Congolais. C'est une façon de stimuler le Congolais. Le troisième axe, qui n'est pas, comme on dit, le dernier, mais non pas le moindre, c'est celui du renforcement des capacités des opérateurs économiques congolais. Là, je salue le courage de Simon Bouloupi, le vice-premier ministre, laissez-moi dire plutôt AI du travail, de l'emploi, du travail et du pouvoir social, il est ministre des PTT, mais je le prends sous l'angle de l'emploi, du travail et du pouvoir social, qui a pris une circulaire, particulière numéro 19, obligeant tous les opérateurs économiques du secteur commerce à s'affilier obligatoirement, je permets la tautologie, à une des trois ou une des principales corporations professionnelles existantes
en France. Voilà.
Il y a la FENAPEC, il y a la COPEMECO, il y a la FEC, et il y a la NEP pour les entreprises publiques. Quand on parle du secteur du commerce, il s'agit essentiellement du petit commerce, essentiellement de la FENAPEC et de la COPEMECO. Ils doivent être très clairs à ce sujet-là. Il a pris cette circulaire. Mais qui a obéi à cette circulaire? Or, à quoi servent justement les corporations professionnelles? C'est pour l'encadrement, c'est-à-dire le renforcement des capacités des opérateurs économiques.
Mm-hmm.
Il y a bien sûr un Congolais qui est intervenu, un des intervenants tout à l'heure, qui a dit, mais un problème qui se pose, c'est que les Congolais ne sont pas sérieux. Enfin, c'est moi qui dis le mot qui dit le mot le sérieux, mais je l'interprète. Il a dit à peu près ça. Pour dire, on sait aujourd'hui que si on laisse aux Congolais l'espace entier du petit commerce, ils ne s'en sortiront pas, ils n'en ont pas les capacités, c'est vrai, ils n'en ont pas les capacités. Et je l'ai avoué l'autre fois, sur cette chaîne de radio, au Capi, je l'ai dit, les Congolais ne sont pas capables aujourd'hui d'occuper seuls l'espace du petit commerce. Ils ont besoin pour y parvenir d'un encadrement sérieux de l'État. Mais pour que l'État parvienne à les encadrer, il faut que l'État traite avec les corporations qui encadrent ces PME. Il faut nécessairement que les petits commerçants congolais, les PME, tous ceux qui veulent, qui ont de bonnes idées pour investir dans ce pays, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'associer quelque part. Ils s'associent au sein d'une corporation professionnelle. Et je préfère prendre le mot professionnel, non pas parce qu'il s'agit des employeurs, mais parce qu'il s'agit aussi des techniciens. Ils peuvent vous aider à savoir comment vous pouvez faire votre comptabilité, comment concevoir votre business plan, votre projet d'entreprise. Le Congolais a besoin d'apprendre tout cela. Comment gérer son personnel, comment gérer ses ressources matérielles. C'est une chose qu'ils apprennent. Parce que c'est bien à l'université, mais on peut aussi les apprendre par des actions de formation orientées et généralement programmées par nos corporations. La FENAPEC les programme régulièrement, la COPEMECO également. Et je pense que nous avons besoin que les Congolais comprennent que un jour ou l'autre, ils doivent savoir faire contact des corporations qui existent et s'y affilier.
Mmh.
Les Congolais raisonnent, ils pensent que, bon, écoutez, quand ils doivent mettre $100 ou $200 pour s'affilier à une corporation, on va lui bouffer son argent. Et ça, c'est stupide, à mon humble avis, parce que si la bonne façon de l'autre, vous le perdez, ça fait partie de ce que nous appelons les coupes de transactions que vous allez subir d'une façon ou d'une autre.
Voilà.
Au lieu de 200, vous subirez 2000, 3000, 4000, 5000 dollars de coûts de transaction que vous allez perdre. Je ne pas forcément le terme bêtement.
Oui. Au moment où vous êtes à Bukavu, Séraphin Aouvira, Benjamin Ariwara, on va revenir à vous après les avoir écoutés parce qu'il y a aussi ce problème de l'investissement qu'on voit actuellement. La plupart des Congolais recourent plus dans le secteur immobilier. On s'est dit même qu'il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans les commerces parce que les conditions de pratique de commerce ne leur permettent pas. Mais beaucoup aujourd'hui investissent dans l'immobilier. On va revenir à vous pour commenter cet aspect des choses. Romain, vous êtes en ligne. Bonjour. Romain, vous êtes à Bukavu, bonjour. Apparemment, Romain s'est redistribué sur sa ligne, cela nous permet de rester dans le sud qui vous avec Séraphin qui est à Ouvira. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, vous avez écouté notre invité, comment il a décrit les trois axes qui peuvent vous permettre aux Congolais de pouvoir évoluer, émerger dans le commerce. Qu'est-ce que vous pensez encore qui puisse être fait, Séraphin?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs préalables qui ont pris en compte l'envie de favoriser l'émergence des commerçants dans ce monde. Parce que, hormis ce que vient de dire votre invité, peut-être que la création de marchés financiers pourra permettre aux opérateurs économiques nationaux à financer à leur activité. Cela qui exprimera peut-être un besoin en fond de roulement. Moi, je veux peut-être aussi souligner un autre aspect qui est celle de l'assainissement du climat de la fin de notre pays. Parce que personnellement, j'ai constaté qu'il y a réellement une essai de l'éviction, c'est-à-dire quoi pire. Donc, c'est-à-dire, il y a l'imposition devient un peu lourde, l'initiative individuelle et de courageux préalable. Donc, il y a une dépression de l'activité des agents économiques nationaux. Et il y a comme conséquence, ça reflète un peu l'offre de biens et services. C'est pourquoi l'État aussi doit assainir le climat de la fin de l'entrée. Parce qu'on ne permet pas à ce que les opérateurs économiques nationaux puissent émerger. Prenez l'exemple de l'impôt sur bénéfices et profits, qui est à 40%. Mais c'est pas ça. Quelqu'un qui a œuvré, qui a travaillé toute une année, vous lui imposez de vous donner 40% sur bénéfices. Comment est-ce que ça permet pas à ces autorités-là pour se faire un cash flow? C'est difficile. Ça, c'est la première des choses. Moi, je voudrais aussi évoquer un autre aspect qui est à adopter la politique d'externalité négative. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a des biens qui sont produits notamment au niveau national, il faudrait que l'État puisse décourager l'importation de ce mets de notre pays. Parce que c'est remarqué, prenons l'exemple peut-être d'un aspect comme la boisson, qui est la chaîne du travailler. Donc l'entreprise produit la boisson. Les agents même de l'encourage en ce qui est l'importation des autres boissons prémices de Boudimora pour venir freiner la conservation de notre produit ici national. Vous voyez, c'est tout à fait impossible. On ne peut pas en avoir de quel sens là. Moi, personnellement, je viens de Boudimora il y a au moins deux jours. Je suis allé là, il y a un ami qui m'avait demandé à celui qui se lui apportait un caisse de la bière pour vous. Vous savez combien ce jeu pour la douane? J'avais payé 40 dollars pour déblayer ce cadeau pour amener ça à Boudimora. C'est un problème. Mais pour nous, ici, il y a des boissons qui proviennent de Boudimora, ça entraîne le gratuitement dans la frontière. Et puis là, ça ne permet pas à ce que l'apprentissage au niveau national puisse émerger, alors que cette entreprise paye tous les droits dus à l'État. Vraiment, ça, c'est l'État qui nous parle. Vous avez la peste totale du gouvernement responsable. C'est ce que je veux dire. Il y a aussi la politique de stabilisation de la monnaie. Notre monnaie n'est pas stable. Et cette stabilité de la monnaie ne permet pas à ce que les opérateurs économiques nationaux tous émerger. C'est pourquoi l'État a une grande responsabilité pour l'émergence de nos opérateurs économiques nationaux.
Merci, Séraphin. Vous avez développé trois choses. Vous avez d'abord parlé de l'assainissement du climat des affaires, hein, le découragement, bien sûr, hein, de l'importation de produits qui sont, produits localement, mais qui, les mêmes produits sont importés et vendus des fois à moins cher que ce qui est produit localement. Cela décourage les opérateurs économiques et aussi la stabilité de la monnaie. Merci beaucoup, Séraphin. Benjamin, vous êtes à Riouaran, province orientale. Bonjour.
Bonjour, Pierre Lannes.
On vous écoute, vous avez une minute et demie pour argumenter votre point de vue, hein, le temps d'écouter aussi Nicole de Mbandaka pour revenir à notre invité pour commenter et conclure cette émission. On vous écoute, Benjamin.
Ok, je vous remercie pour cette opportunité. Je suis à Riouara, j'appelle la partie des centres commerciaux de Riouara. Ce que je voudrais seulement signaler, c'est celui qui vient à servir. Parce que tout, nous avons constaté aucun acte favorable que l'État congolais pose pour vraiment épauler nos commerçants qui sont en train de se doublier, tant bien que mal. Ici, nous avons constaté que c'est l'effort de chacun. Si vous êtes fort, vous n'êtes pas fort, vous demeurez stationnaire. Surtout, nous avons constaté que ce qui décourage ici, c'est nous, c'est surtout l'exagération des tarifications au niveau des frontières. Du coup, les gens qui portent les marchandises, par exemple, à partir de Dubaï, qui passent par l'Ouganda, à la frontière, aux douanes, se produit tellement cher. Et arrivé sur terre, vous allez voir que les prix vont maintenant augmenter. Ceux qui se sentent même incapables, vont décider même d'aller à Mouton pour acheter les marchandises et les prix. Alors, c'est-à-dire pour les petits commerçants qui voudraient évoluer et partir même ils sont vraiment sécurisés. Et la grande responsabilité revient vraiment à l'État.
Voilà, merci.
Il faut que l'État puisse revenir vraiment sur ses responsabilités pour favoriser les commerçants pour qu'ils puissent évoluer favorablement.
Merci Benjamin. Vous avez évoqué la multiplicité des taxes, hein, au niveau de frontières, ce qui ne permet pas aux Congolais de pouvoir évoluer dans le secteur commercial. On termine cette émission en nom des auditeurs avec vous, Nicole de Mbandaka. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
On vous écoute rapidement, Nicole. Vous avez une minute et demie, hein. C'est bien d'avoir une femme sur les antennes, ça fait plaisir. On vous écoute.
Oui, je voulais dire ceci. Dans notre pays, tu sais, dans notre pays, vraiment, les opérateurs économiques, les commerçants, il n'y a pas vraiment d'accès des commerçants qui ont beaucoup d'argent. Donc, quant à moi, pour que les commerçants ou les opérateurs économiques puissent faire acheter des choses en gros pour vendre ici chez nous, il faut que les commerçants, deux ou trois commerçants s'associent, chacun apporte soit sa part et ils s'associent. Il faut toutefois acheter des choses à l'extérieur du pays et le vendre ici, compte tenu de tout ce que vous avez dit. Parce que ici chez nous, au Congo, je crois que dans nos banques, vraiment, les gens n'ont pas vraiment tout ce qu'ils pensent. Ils croient que si, par exemple, on donne à un agent économique ou à nos commerçants quelque chose, le commerçant ne va pas donner l'argent. Ou soit si le commerçant garde son argent dans une banque, comme chez nous ici en Bandaka, peut-être si tu gardes ton argent dans une banque et peut-être que tu te trouves à Kinshasa, si tu veux retirer, on te demande toujours le problème. Donc, si vraiment, quant à moi, je vois que les opérateurs économiques peuvent s'associer pour faire des choses.
Voilà, pour faire façon. Merci, Nicole. Vous êtes en Bandaka, vous pensez qu'il faudrait une association. Les gens n'ont pas assez de capitaux pour pouvoir évoluer. Il faudrait des associations. Et terminons avec John Degoma qui dit ceci, les pouvoirs doivent organiser, améliorer les infrastructures routières. Le commerce évoluera avec une rentabilité élevée en RDC. La route est un grand facteur du développement. Nous revenons à vous, Prof. Michel Sommet. Vous avez suivi nos auditeurs. Et comme je vous disais, malheureusement, comme la première partie de l'émission, on est revenu sur le petit commerce, les uns et les autres. Ils ont parlé de l'association, l'État, comme on a chargé vraiment l'État qui doit organiser les secteurs. Mais je me disais, un constat actuellement, c'est que les gens se rendent compte qu'avec les climats d'affaires, c'est difficile de voler dans les commerces. Et nombreux se réfugient dans le secteur immobilier. Ils pensent qu'il serait mieux d'investir dans l'immobilier plutôt que dans les commerces où il sera très difficile de pouvoir évoluer. Et cela vous permet aussi de conclure cette émission dans 3 minutes et demie par rapport à tout ce qui a été dit. Et en grande ligne, c'est que les auditeurs peuvent retenir pour évoluer et émerger dans le secteur commercial.
Oui, Pierrot, j'ai suivi avec attention toutes les interventions qui viennent d'avoir lieu, qui chargent essentiellement l'État. Et c'est ce que nous avons dit, un minimum de protection au départ est toujours indispensable.
Mm-hmm.
Le climat des affaires, que vous soyez dans l'immobilier ou pas, vous serez poursuivi par un climat des affaires qui est médiocre. Parce que il faut faire attention, nous sommes dans un pays où il y a souvent non pas un effet de mode, mais un comportement plutôt moutonnier.
Mm-hmm.
Vous allez voir que dans la plupart des cas, les Congolais ont tendance à investir dans un secteur lorsque, un peu comme tous à la mode en même temps, quand un jour on se rend compte que c'est tel qui est allé dans la chambre froide avec de l'argent, tout le monde voudra investir dans la chambre froide, et puis comme un feu de paille, au bout d'une année, de 2 ans, 3 ans plus tard, les gens abandonnent quand les faillites commencent à se succéder.
Mm-hmm.
Lorsque vient le phénomène de Dubaï avec les appareils de télécommunication, tout le monde veut faire Dubaï. Et puis toutes les femmes sont à Dubaï, toutes les femmes sont en Guangzhou en même temps. Et puis au bout de 3, 4, 5 ans, comme un feu de paille, ça s'éteint, on en parle plus, tout le monde est tombé en paille, tout le monde. Ça, c'est un problème, ça, c'est un comportement moutonnier. Nous disons que cela l'État ne peut pas prendre la température de son économie sur base de ses comportements sporadiques. Il est important, absolument, à mon avis, que même dans le secteur immobilier, un préalable soit fait.
Mm-hmm.
Le préalable, justement, c'est quoi? Le préalable, c'est d'abord l'implication de l'État. Nous devons, dans tous les pays du monde, même les plus capitalistes du monde, souvenez-vous, quand on parlait de l'immobilier, que la dernière grande crise financière qui a secoué le monde,
c'est
parce que l'immobilier aux États-Unis. À ce moment-là, on disait, quand l'immobilier va, tout va. On croyait qu'aux États-Unis, l'immobilier, pas on croyait, c'était une réalité, l'immobilier était le facteur de développement à côté de la croissance économique aux États-Unis.
Mm-hmm.
Alors, on a pensé que c'est ça qui va sauver toutes les économies. Et puis, un jour, ça nous a amené, on a frôlé la grande crise des années 30, presque. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'État doit nécessairement, je l'avais dit dès le départ, organiser un état des lieux de l'économie nationale, une véritable table ronde de l'économie nationale, à travers laquelle nous allons faire un diagnostic sévère. L'économie nationale, c'est une affaire des experts, c'est une affaire technique. Ce n'est pas une affaire de dialogue, de slogan politique. C'est une affaire où il faut rechercher l'intelligence économique dans ce pays, les réunir et poser des problèmes et des questions sérieuses pour que les gens vous disent vers où il faut orienter l'économie, qu'est-ce qui ne va pas vraiment. Il faut que le décideur politique s'habitue à écouter le langage d'experts. Lorsqu'on vous dit tel secteur ne marche pas, apprenez à écouter. À la limite, approchez ces experts, dites-nous comment il faut réparer cette panne. Comment vous aider à le faire? Au lieu de se cabrer dans des positions musclées pour dire que nous sommes les plus forts, c'est nous qui sommes puissants, c'est nous qui faisons ceci, ce qu'il dit là-bas, c'est une histoire, et puis après on passe, on oublie. Bon, on passe, on oublie, mais on reste à la misère dans la crise. Aujourd'hui, avant de penser immobilier, avant de penser, c'est pas un petit commerce ou un commerce, il est important qu'on repense d'abord le débat sur l'économie nationale. Et là, il n'a jamais eu lieu. Mais qui dit économie nationale pose déjà un problème de l'indépendance économique. Or, ce qui pose problème de l'indépendance économique pose aussi un problème d'interdépendance des nations à travers la mondialisation. Il faut que ce débat soit clair, soit franc, et qu'il soit sérieux. Il vaut plus que tous les chantiers du monde qu'on puisse imaginer aujourd'hui pour la guerre du Congo. Parce que nous sommes une économie qui a besoin de l'être et qui n'est jamais née. Donc nous sommes une économie qui a besoin de s'approprier et qui s'est appropriée jusqu'à ce jour. Il faut qu'un jour l'État dise, assurons-nous, développons l'économie, développons la politique d'État.
Voilà, merci beaucoup M. Michel Sommoy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes administrateur délégué de la Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, FENAPEC. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivi. On se retrouve demain, vendredi, pour parler sport. Vous savez, le samedi, la RDC est présente au Sénégal pour le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2012. Et c'est dans les conditions où l'entraîneur Robert Mouzaré a déposé sa démission depuis le mardi. Et on annonce l'arrivée de notre entraîneur Claude Leroy. Dans ces conditions, pour vous, les auditeurs, quelles sont les chances de la RDC de se qualifier pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations? Soyez nombreux à vous inscrire sur pa@radiotapi.net. Au revoir à tous et surtout merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission.